phénomène qui inquiète beaucoup les lycées. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Pillage de magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Bonsoir, et c'est donc avec grande tristesse que nous apprenons ce soir le décès de Gérard Collomb.
Nous sommes le mercredi 30 mai, il est 19h passé de 9 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Ah, alors, continuons donc dans les très mauvaises nouvelles, il y a Serge Dassault aussi qui est mort. Mais ce soir, on ne va pas vous parler de ça parce qu'on s'en fout, ou plutôt on est content. Mais on va parler de quoi?
Ben, on va parler de l'hypocrisie nationale en matière de politique d'accueil.
On va parler on va continuer à parler d'hypocrisie en matière de financement de l'Union européenne des États totalitaires pour barrer la route aux migrants.
Et aux États-Unis, les flics séparent désormais les parents migrants de leurs enfants. Sinon, on va aller au Nicaragua pour parler du soulèvement populaire qu'il y a depuis un mois. Et on finira sûrement ce Canu Info en parlant de répression, sur la ZAD et dans les facs en France. Et donc, Mamadou Gassama, qui a sauvé un enfant de 4 ans d'une chute du 4e étage samedi à Paris, s'est entretenu avec Macron lors d'un entretien à l'Élysée ce lundi. Il est considéré comme un héros. Tous les papiers vont être régularisés, lui a promis Emmanuel Macron. Il lui a également proposé d'entamer des démarches en vue d'une naturalisation. Ce que Mamadou a accepté, il devrait intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. Et donc, tant mieux pour lui, mais ce qu'on peut voir par cette histoire qui a été largement médiatisée, c'est que Macron entretient la flamme de cette sale morale au mérite. C'est vraiment de l'hypocrisie nationale de le promouvoir lui autant comme un héros et de ne pas parler du reste de la politique en matière d'accueil. Parce que pendant ce temps, ce matin à Paris, plus de 1600 migrants étaient expulsés du campement du millénaire. Sur ce coup-là, c'est qui les héros? C'est les flics, c'est ces 600 flics venus sur cette opération d'envergure exécuter les ordres de Colomb et Hidalgo, respectivement ministre de l'Intérieur et maire de Paris. Les habitants étaient installés depuis plusieurs mois à Porte d'Aubervilliers, sous le périphérique, dans ce campement qui était le plus grand de la capitale, qui était devenu. Et où est-ce qu'ils vont dormir, puisqu'ils sont partis ce matin? Il y a eu 18 gymnases apparemment qui ont été ouverts, 780 places, même pas pour la moitié des habitants du camp. Et pour combien de temps les gymnases ils se renouvellent de semaine en semaine? Et combien de personnes ont été dublinées, c'est-à-dire renvoyées dans le premier pays de l'Union Européenne sur lequel il est arrivé? Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a sûrement beaucoup de bus qui ont été affrétés pour l'Italie. Voilà, et ces mêmes autorités ont également annoncé aujourd'hui l'expulsion dès que possible, ça c'est leur mot, des deux autres gros campements de migrants à Paris, le long du canal Saint-Martin et Porte de la Chapelle, où vivent quelques 800 personnes. Et donc, je pose cette question: à quand des papiers pour tout le monde, héros ou pas? Et sinon, un détail, c'est... je ne sais pas si c'est un détail, c'est pour ça que... j'en parle, c'est les médias mainstream utilisent le terme évacuation pour parler de cette expulsion-là. Tous les articles que j'ai relevés. Évacuation relève beaucoup plus du registre langagier scientifique ou humanitaire. C'est un mot plus acceptable, en fait, plus lisse, plus propre. Pourtant, ces personnes, aujourd'hui, sont bien fait virer, expulser, jeter ailleurs.
Et on va voir que tout ça continue, quoi, s'inscrit en tout cas dans une logique plus européenne de flux migratoires. Alors, c'est ce que je vais vous raconter là, c'est issu d'un rapport qu'a gentiment détaillé Bastamag, un rapport de TNI pour Transnational Institute, qui se nomme Expanding the Fortress. Et voilà donc que le journal Basta a eu le plaisir de vouloir décortiquer pour nous, donc je les ai largement pompés. Mais en tout cas, que nous dit ce rapport? Eh bien, par exemple, imaginez que vous tentez de fuir la guerre en Syrie. Alors bon, là, normalement, on se dit que rien n'est plus consensuel qu'un réfugié syrien. Sauf que certes, vous avez survécu au bombardement du régime, aux exactions de Daesh. Là, vous vous retrouvez à la frontière turco-syrienne. En toute logique, vous vous dites que c'est gagné. Eh bien, c'est raté. Vous allez devoir éviter les blindés des gardes-frontières turcs et de courir en zigzag pour éviter les tirs des balles des soldats. Par exemple, entre septembre et mars, au moins 14 personnes, dont 5 enfants, ont été abattues par les soldats turcs. Vous devrez faire face à des caméras thermiques et des miradors militaires intelligents, capables de tirer automatiquement sur les réfugiés. Et si l'Europe sait bien faire de la pub pour le financement de ces jolis projets avec des belles pancartes sur certaines constructions, elle sait aussi être discrète quand elle finance la guerre aux réfugiés. Car une partie des tanks militaires postés à cette frontière sont financés par l'Union européenne. Des dizaines de millions d'euros d'équipements fabriqués par les entreprises d'armement turques Aselan et Otokar et payés sur fonds publics européens. En mars 2016, avec la signature du fameux accord UE-Turquie, on en a beaucoup parlé ici, les Européens se sont engagés à verser 6 milliards d'euros à Ankara contre le droit de renvoyer les réfugiés syriens de la Grèce vers la Turquie. Le gouvernement Erdogan s'est alors empressé de fermer sa frontière avec la Syrie pour empêcher les réfugiés d'arriver. Alors si jamais vous avez réussi malgré tout à passer cette frontière turque, vous n'êtes pas sorti d'affaire pour autant. Il vous faudra traverser la mer Égée pour rejoindre l'île grecque pour arriver enfin dans l'Union européenne. Mais prenez garde, ces eaux sont fréquentées par des navires de patrouille du constructeur néerlandais Damen, offert à la Turquie, devinez par qui ? Par l'Europe. Leur mission officielle, sauver des réfugiés en détresse en Méditerranée. Le commandement des gardes-côtes turcs évoque plutôt, de son côté, des, je cite, « combats contre l'immigration illégale ». Alors que les réfugiés qui bravent la mer à bord de canots de fortune se rassurent, la formation de ces gardes-côtes est, elle aussi, financée par l'Union européenne. Le contenu de ces formations sont, je cite, « combattre l'immigration clandestine », donc notion de combat bien intégrée par les gardes-côtes turcs qui sont régulièrement accusés de brutalité envers les migrants ou tout simplement de tirer dans leur direction. Et si vous arrivez en Grèce et donc en Europe, ce n'est pas fini, vous allez devoir survivre dans des conditions indignes et éviter de vous faire griller en Grèce si votre but est de déposer une demande d'asile dans un autre pays européen pour ne pas se faire dubliner et donc devoir retourner en Grèce. Et malgré tout ça, une fois votre demande d'asile déposée, il faudra espérer qu'elle soit acceptée, ce qui n'est pas évident non plus. Bon, pour les personnes qui ne passent pas par la Turquie, la route est loin d'être moins périlleuse et l'Europe y mêle encore un peu de son argent. C'est le cas des migrants qui passent par le Soudan et la Libye. Ceux qui tentent d'échapper à la guerre civile sud-soudanaise, à la répression du peuple Orman en Éthiopie, à l'enrôlement forcé des mineurs et aux violences sexuelles dans les camps militaires de l'armée érythréenne, bon nombre de réfugiés africains passent par le Soudan. Pays tenu par Omar al-Béchir, militaire à la tête du Soudan depuis 1989, ce qui fait bientôt 30 ans. La Cour pénale internationale l'accuse de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est donc en toute logique que plusieurs Soudanais et Soudanaises tentent de fuir leur pays. D'après Amnesty International, les arrestations arbitraires, les placements en détention et autres violations du droit humain sont monnaie courante au Soudan. Si vous êtes réfugié, vous avez également le risque de tomber sur les milices Janjaweed, accusées elles aussi de crimes de guerre au Darfour, milices qui sont aujourd'hui reconverties en, je cite, « force de soutien rapide » et ayant en charge d'arrêter les demandeurs d'asile et les remettre à la police. Malgré tout, ça, l'Europe trouve que le Soudan est un bon interlocuteur pour gérer les migrants. C'est pour ça que le Soudan s'est vu inclus dans le processus sur les routes migratoires dénommé « processus de Khartoum ». Il était également invité au sommet entre l'Union européenne et l'Afrique, sommet qui portait bien évidemment sur les migrations et qui se sont déroulés à La Valette, sur l'île de Malte en 2015, sommet qui a abouti pour le Soudan à recevoir des millions d'euros de la part de l'UE pour lutter contre l'immigration. Bien que l'UE nie tout forcément soutien aux milices Janjaweed et tout financement direct au gouvernement soudanais, un rapport d'enquête de députés européens datant de décembre 2016 fait état de livraison d'équipements, matériel informatique, véhicules, caméras, etc. à la police prévue dans les projets de contrôle de migration. Police qui, on s'en souvient, est appuyée par les milices Janjaweed et en lien avec la terrible police secrète soudanaise. Et c'est donc tout naturellement que l'Europe va ouvrir un, je cite, « centre de commandement régional à Khartoum », qui est donc la capitale du Soudan. Ce centre sera géré par la société de conseil du ministère de l'Intérieur français, Civipol. Souvenez-vous de ce nom, parce que je vais en reparler tout à l'heure. L'objectif est clair, il s'agira d'améliorer la formation de policiers soudanais, ainsi que l'échange et le partage d'informations dans des pays comme le Soudan, la Libye, l'Érythrée, l'Égypte, et l'Éthiopie tient donc des états qu'un paquet de personnes tentent de fuir pour échapper, par exemple, à des détentions arbitraires, aux tortures, etc., etc.
C'est marrant, le même truc qu'ils ont fait en Turquie, ils le font au Soudan, quoi.
Exactement. Bah, c'est ça, c'est que le principe, c'est qu'en fait, là, la Turquie, bah, c'est, déjà, ça commence à être un peu trop proche, c'était la frontière directe avec l'Europe. Et là, leur but, c'est vraiment d'aller de reculer ces frontières de plus en plus, que ce soit de plus en plus loin, que nous, on ait de moins en moins de regard là-dessus, et donc que les pays puissent faire un peu plus ce qu'ils veulent, quoi. Ainsi, les polices locales seront mieux formées pour endiguer à la racine ce fameux flux migratoire, empêchant donc les personnes tentant de fuir leur propre pays. Et si, malgré tout, les efforts mis en place par l'Europe, un réfugié, par exemple soudanais, parvient à déposer une demande d'asile en Belgique, en France ou en Italie, il pourra malgré tout être attrapé par les services soudanais d'Omar al-Béchir, qui ont accès au centre de rétention grâce à la, je cite, « collaboration technique entre pays européens et africains ». Alors, c'est-à-dire que quand c'est pas, ils n'ont pas accès, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à retrouver le double des clés quelque part, quoi. C'est-à-dire que des pays comme la France, la Belgique et l'Italie ont un accord avec des pays comme le Soudan, et qui leur permet qui permet aux services soudanais de rentrer, d'interroger les gens, de savoir s'ils sont soudanais ou pas, de les ramener au Soudan, et voilà. Donc, par exemple, c'est ce qui est arrivé à un dissident du Darfour expulsé de France fin 2017, qui raconte après son expulsion. Donc, une fois arrivé à Khartoum, il a été électrocuté, battu et frappé avec des tuyaux en métal pendant 10 jours. Des actes de torture qui ont donc été permis par la qualité de la coopération entre l'État français et le Soudan. Du côté du Mali, ouais, c'est ça, ça fait quand même pas rêver. Hein. Et puis en plus, c'est des trucs, ouais, vraiment, j'imagine qu'il y a quand même tout un tas de gens qui disent, bon, il y a un lot de crapuleries, de trucs dégueulasses qui se passent dans les centres de rétention. Mais j'avoue, moi, si j'avais pas lu ça, on m'avait dit, il y a des services d'un État totalitaire qui a accès aux centres de rétention pour interroger les gens, j'aurais dit, oh, allez, j'imagine qu'il doit y avoir un peu une espèce d'incompréhension, quoi. Eh bien non, hein, l'État est capable de pas mal de trucs. Bon, mais du côté du Mali, du Niger, du Burkina Faso ou de l'Éthiopie, des États assez dépendants de l'aide au développement se retrouvent être régulièrement la cible de l'UE quand il s'agit de projets migratoires, avec le risque de créer un chantage à l'aide au développement. Enfin, avec un risque, hein, c'est quand même... plutôt minimisé que de dire ça. En clair, si soit tu coopères, soit tu gères les réfugiés, soit on te coupe tes subventions. Bon, bien évidemment, l'Union nie de tel chantage et soutient que ces programmes visent à réduire le flux migratoire en soutenant le développement local. Pourtant... Hein,
bah oui, c'est vraiment la logique de plus tu vas mettre de frontières et d'équipements sécuritaires aux frontières... armes létales ou non, plus tu compliques l'accès de circulation à tout le monde. Mais essentiellement aux personnes les plus malvenues, entre guillemets, pour ce qu'ils considèrent eux.
C'est ça, et il y a aussi un peu tout l'espèce de chantage un peu qu'arrivent à faire les pays comme le Mali. À un moment, on avait pas mal parlé, il y a de ça, je pense bien, 8 ans. Mais vous avez dit, si vous ne filez pas de la thune, nous, on arrête de délivrer des laissez-passer aux gens que vous voulez expulser vers le Mali. Les laissez-passer, vous savez, quand il y a une personne qui est en centre de rétention, qui va être expulsée, eh ben, faut que le pays d'arrivée du migrant signe un laissez-passer pour dire « je reconnais bien que cette personne, si on parle du Mali, là, cette personne est bien d'origine malienne, et donc, oui, vous avez le droit de l'expulser sur notre sol. » Ça, c'est des cas si les personnes n'ont pas de passeport sur elles. Donc voilà, le Mali et d'autres, et d'un moment la Tunisie ne le faisaient pas, je ne saurais pas vous dire si c'est toujours le cas, mais voilà. Donc les pays font un peu ce genre de pression. En tout cas, sur 583 millions d'euros du fonds fiduciaire d'urgence pour le Mali, bon c'est des termes un peu techniques, mais c'est les termes de financement européen là. Ces fonds fiduciaires d'urgence pour le Mali, le Sénégal et le Niger, plus de 45% de l'argent est en réalité alloué à des projets de dissuasion, de prévention des migrations, de lutte contre les passeurs et au renforcement de la sécurité des frontières, ainsi qu'à des projets favorisant les expulsions depuis l'Europe.
Du coup, on met plein de thunes pour des armes plutôt que pour d'autres choses.
C'est ça. En gros, ce que dit le rapport, c'est qu'en fait, oui, effectivement, des sommes colossales qui auraient pu servir à des projets de lutte contre la pauvreté, lutte qui ne se situe pas exclusivement dans des zones de transit de migration, mais ces zones-là, clairement, l'Union européenne n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que quand l'Union européenne file ses fonds, les États les investissent dans des... Dans des zones qui sont pas des zones de transit, ils vont pas spécialement pouvoir les justifier. Ils vont dire non, mais ça, en fait, nous, c'est pas notre problème. Vous investissez de l'argent pour ça et ça. C'est pas ce qu'ils disent clairement, mais en gros, c'est ça. Ce contrôle des migrations a un impact économique, forcément pas celui imaginé. Au Niger, par exemple, une loi criminalisant les passeurs a été adoptée. En contrepartie de fonds d'urgence européennes. Alors cette loi a miné l'économie d'Agadez. Agadez, c'est la ville la plus importante du Nord-Niger. Soutenue par l'Europe avec son programme Politique Européenne de Sécurité et de Défense, autrement appelé PSDC, la police nigérienne, formée par Civipol, hein, vous vous souvenez, c'est l'espèce de service du ministère... du ministère de l'Intérieur, je crois. Du ministère de l'Immigration. Ils ont donc été équipés de 4x4 et de motos offerts par l'Allemagne et traqué les passeurs et confisqué leurs véhicules. Alors, quand même, le rapport, mais en disant que c'est pas sûr que cette crise économique d'Agadez dissuade les candidats à la migration. effectivement, les gens sont encore plus dans la merde, donc c'est quand même vraiment, vraiment pas sûr que les gens ont encore plus envie de rester. Et c'est encore moins sûr que les passeurs ne vont pas trouver d'autres routes encore plus périlleuses pour continuer de se faire du pognon. Un exemple, les morts en Méditerranée ne sont qu'une partie visible des morts sur les routes des migrants. On estime que 2 fois plus de gens meurent sur les routes terrestres qu'en Méditerranée. L'Europe dépense donc des millions pour faire plus de morts. Des millions dépensés pour que ces gens meurent loin de nos frontières, loin de l'opinion publique et donc moins embarrassant, là on peut plus facilement s'affranchir des traités internationaux. L'Europe a commencé à mettre en place ses accords de coopération, de contrôle des migrations avec le reste du monde en 1990. Ce phénomène s'est accéléré en 2005 et s'est largement amplifié en 2015 quand a eu lieu le sommet Afrique-UE à La Valette sur l'île de Malte. Pour les auteurs du rapport, cette stratégie est vouée à l'échec à long terme, avec comme risque de légitimer des gouvernements connus pour leur répression féroce et leur violation des droits humains, et qui donc poussent habitants de ses propres pays à fuir. Donc ce qu'il y a, c'est que quand même sur ce rapport-là, on voit depuis le début que en fait, les mesures qui sont mises en place, elles ne luttent pas contre la pauvreté dans ces pays-là, ce qui pourrait... dire en fait que les gens en général ne quittent pas, enfin il y en a peut-être, mais en tout cas la majorité ne quitte pas leur pays juste pour le plaisir, ils tentent de fuir un champ hyper large de plein de trucs, souvent quand même la pauvreté, enrayer la pauvreté dans le monde, c'est quand même une lutte qui est quand même assez importante, et du coup ça pourrait régler des gens qui seraient contraints de partir de chez eux.
Mais globalement des sous pour des politiques publiques. Je veux dire souvent c'est aussi que les États ils sont dictatoriaux, soit ils sont aussi à la solde de l'Europe et des États-Unis, et du coup rien n'est ou très peu de choses sont faites pour la population. Mais je veux dire j'exclus pas l'Europe en disant ça, quoi. Il y a vraiment de moins en moins de choses qui sont pensées par des politiques publiques pour faire attention à la santé, à l'éducation, au bien-être des populations en général.
Bah, clairement, en plus c'était clairement sur les 45% là dont je parlais tout à l'heure, où effectivement l'Europe a beau dire que c'est pour soutenir le développement local, sauf que c'est pareil, parce que si ces pays mettent 45% de cet argent-là dans le contrôle du flux migratoire, clairement, je pense pas que c'est des gens anges, et que s'ils peuvent s'en mettre dans les poches, ils vont s'en mettre dans les poches. Mais ça, je pense que l'Europe en a rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment qu'ils militarisent les frontières et qu'ils contrôlent les routes. Du coup, c'est sûr que leur but, c'est ça, et c'est pas du tout le développement local, quoi. Parmi qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc c'est ça, je l'ai dit. Parmi les 35 pays considérés comme prioritaires par l'Union européenne pour sa politique d'externalisation des frontières, 17, soit près de la moitié, ont un gouvernement autoritaire et seulement 4 peuvent être considérés comme démocratiques. Hein, on sait que ces pays considérés... Qu'est-ce que j'allais dire ? Non, j'allais dire une connerie, pardon. Tous posent des risques extrêmes ou élevés pour l'exercice des droits humains. Alors, comme il s'agit d'argent public, hein, cette politique contre-productive coûte cher aux contribuables. Hein, donc, les gens qui soulèvent en général parce qu'ils payent trop d'impôts, en général pour des mauvaises raisons, là, on a un argumentaire pour leur dire qu'ils pourraient au moins dire que ces impôts leur servent à autre chose que à créer des morts sur les routes migratoires. Mais, par contre, elles rapportent un gros paquet de pognon aux entreprises privées d'armement et aux sociétés de conseil. À Bruxelles, tout en reconnaissant, je cite, la sensibilité politique d'un tel soutien, leurs lobbyistes ont plaidé pour l'augmentation du, je cite à nouveau, financement des activités liées à la sécurité dans le voisinage de l'Union européenne, y compris l'acquisition d'équipements et de services. On parle de matériel de surveillance et de patrouille, formation de forces militaires, etc., etc. Dans le prochain cadre budgétaire européen, la Commission européenne est prête à tripler les fonds pour la protection des frontières. Tripler la protection des fronts aura fatalement comme résultat une très forte hausse du nombre de morts aux frontières ou sur les routes de l'exil, ou alors même dans les pays de départ, comme l'Europe a l'air de vouloir le faire.
C'est un bon exemple du capitalisme libéral dans toute sa splendeur, des vies humaines contre du fric.
Et alors, on va faire un tour du côté des États-Unis où la gestion migratoire ne semble pas non plus meilleure.
Non, non, non. En fait, depuis l'élection de Donald Trump, les familles de migrants et demandeurs d'asile qui étaient donc interpellées à la frontière mexicaine sont détenues dans des centres de rétention séparément. Les enfants et les parents, parfois dans des villes différentes et même dans le cas d'enfants très jeunes. Donc depuis plusieurs mois, des centaines de personnes l'ont subi, de séparation et été recensées par les associations de défense des droits civiques. L'association de défense des droits civiques ACLU a engagé une procédure légale contre cette pratique du gouvernement qu'il considère comme une violation de la Constitution des États-Unis. Ben oui, séparer des familles entières, c'est chaud quoi. La nouvelle approche introduite par le ministère de la Justice consiste en fait, et c'est un gros changement, à condamner les personnes qui ont traversé la frontière illégalement à des crimes et non plus à des infractions civiles. Donc en fait, maintenant, du coup, on sait déjà en France, c'est criminalisé sur plein d'aspects le fait de juste être illégal. Et ben là, aux États-Unis, c'est pareil. Une des personnes qui ont traversé la frontière illégalement, c'est un crime. Et donc, les adultes sont placés en prison et non en centre de rétention, alors que les enfants sont gérés par une autre entité administrative qui détient habituellement les mineurs qui traversent seuls la frontière. Et aux États-Unis, mais en France aussi d'ailleurs, hein, qui dit détenu, qui dit en fait main-d'œuvre bon marché pour faire engrossir l'économie états-unienne d'une main-d'œuvre quasi gratuite, quoi.
C'est un phénomène qui est, je crois, encore plus important aux États-Unis qu'en France, par exemple.
C'est ça, c'est complètement massif. Et ça fait vraiment que l'économie états-unienne tient par ces détenus. Et pour finir, il y a quelques jours, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, donc John Kelly, a sournoisement soutenu cette pratique en disant qu'il s'agissait d'une dissuasion efficace et que les enfants seraient, je cite, « placés dans des foyers ou autres ». No comment.
Faire un tour du côté du Nicaragua.
Et du coup, il y a un soulèvement populaire, des manifestations ébranlent depuis plus d'un mois le pays et ne devrait pas pour autant s'arrêter malgré la violence de la répression d'État qui compte aujourd'hui malheureusement 87 morts et plus de 900 blessés. C'est vraiment gigantesque. Le président du Nicaragua, l'ancien guérillero sandiniste Daniel Ortega, avait proposé une réforme des retraites qui a mis le feu aux poudres. Donc en fait, le peuple nicaraguain reproche à son président une dérive autoritaire similaire à celle du dictateur Anastasio Somoza, qu'il a pourtant combattu les armes à la main dans les années 70. Sauf que, bah, comme souvent, il y a des gens, ils en combattent d'autres et ils font les mêmes merdes au pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer au Nicaragua. Le 18 avril 2018, donc c'était il y a un mois, je dis un mois, peut-être un petit peu plus d'un mois maintenant, un décret présidentiel a voulu imposer une réforme des retraites. Elle prévoyait une baisse des retraites de 5% afin de réduire le déficit de la sécurité sociale. Sauf que c'est dans un pays en grave crise économique et sociale, privé du soutien financier du Venezuela, La réforme auprès des citoyens n'est pas du tout passée. Et donc, sous la pression populaire, Daniel Ortega a fini par retirer son projet. Sauf que les gens étaient déjà dans la rue. Et les manifestations étaient réprimées dans une violence extrême dès le départ par la police et des groupes armés de Front Sandiniste de Libération Nationale, le FSLN qui est au pouvoir. Et du coup, le bilan est trop lourd. Et du coup, c'est cette réforme où les gens sont descendus dans la rue, il y a eu des morts et des morts. Et du coup, ça a fait vraiment exploser l'ensemble du pays. Je cite, l'annulation de la réforme n'arrêtera pas le mouvement car Ortega est allé trop loin dans la répression. Donc ça, c'est une des citations que j'ai pu trouver dans un des journaux d'une personne interviewée, des extraits d'articles que j'ai lus. Alors que la répression depuis plus d'un mois a fait donc 87 morts, des centaines de blessés, détenus et disparus, la répression des flics est qualifiée d'impitoyable par la Prensa. C'est un journal qui soutient que l'une de ses journalistes en a été victime, mais globalement toute la population est victime de cette répression. Et donc pour ce journal, pour la Prensa, le gouvernement Ortega n'a rien à envier à la dictature des Somoza, donc qui était l'ancien dictateur. Et là, Ortega, il a été élu démocratiquement. Il n'est pas censé être aussi autoritaire que là ce qu'il est devenu. Bref, donc ce quotidien soutient qu'il a lui aussi recours à des escadrons de la mort qui bénéficient du soutien technique d'individus sans scrupules agissant dans les médias officiels et sur les réseaux sociaux du gouvernement. Leur objectif, diffamer et menacer la vie des personnes. Et pour l'éditorialiste d'un autre journal qui s'appelle Confidential, le changement est inévitable. Désormais au Nicaragua, reste à savoir quand il interviendra. En tout cas, je cite, les tactiques normalement utilisées par Ortega et Murillo ont déjà été épuisées. Du coup, il y a vraiment une situation de ce que j'ai capté de tous les articles que j'ai lus là, des gens, ils sont vraiment à bout. Il y a vraiment une tension extrême. Sauf que, du coup, il y a eu des pourparlers qui avaient été négociés, c'était mis en place il y a 2 semaines. Là, cette semaine dernière, il y a eu rupture des pourparlers entre, du coup, on va dire, des représentants de la population et le gouvernement d'Ortega. Et ensuite, ils sont arrêtés. Et là, ils ont repris lundi. Et donc, Daniel Ortega et l'opposition se sont mis d'accord pour reprendre des discussions sur une démocratisation du régime en échange d'une levée partielle des barrages routiers qui immobilisent l'économie du pays. Parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que les gens, malgré la répression, ils sont super vénères. Ils bloquent les routes, ils bloquent les rues. En fait, l'économie vraiment du pays, elle est bloquée. Et c'est ça qui oblige Ortega aussi à aller discuter. C'est que là, moi, je ne sais pas ce que j'ai capté, c'est ultra impressionnant. Les gens, ils restent et je pense que c'est ultra dur pour eux et pour elles. Mais ils restent là et en fait, c'est allé trop loin pour que ça s'arrête. Et ce qui fait que ça fait quand même une réelle pression. Que la Ortega, il est obligé d'une manière d'écouter sa population. Il ne peut pas, comme elle bloque l'économie, il ne peut pas faire autrement. Voilà, et donc le mouvement populaire ne faiblit pas et la population continue à tenir les routes et les rues. Et ben, on verra la suite, je pense, dans les prochaines semaines. Et sinon, en France, la privatisation de l'eau des nappes phréatiques dans les Vosges. Donc ça se passe à Vittel, donc dans les Vosges. Nestlé Waters et les habitants pompent la même eau. Sauf que Nestlé Waters, c'est une multinationale.
Qui, j'imagine, appartient à Nestlé.
Exactement. Et sauf que la ressource en eau se réduit de façon préoccupante. Et donc, les autorités locales ont trouvé une super solution. Ils veulent la faire venir des environs pour abreuver la population. la multinationale, elle, va pouvoir continuer de puiser dans le sous-sol de Vittel.
Logique, non.
Voilà, c'est super logique. Encore une fois, les gros sous de cette société libérale. Des centaines de millions de litres d'eau sont ainsi extraits chaque année des profondeurs lorraines. Tant et si bien qu'une de ces nappes souterraines la plus profonde et la plus importante est menacée d'épuisement. Mais plutôt que d'exiger de la multinationale qu'elle réduise ses prélèvements, élus et industriels, les élus avec, hein, puisque c'est fait des gros sous, envisagent ni plus ni moins de serrer la ceinture sur l'eau des habitants. Donc, à Vittel, l'eau des robinets ne proviendra peut-être plus du sous-sol, mais sera acheminée par pipeline sur des dizaines de kilomètres. Donc, le géant international s'est approprié la ressource locale pour commercialiser l'eau en bouteille. Ça, c'est une citation d'une personne qui dénonçait France Nature Environnement en mars dernier. L'entreprise s'octroie un réel monopole sur une ressource qui n'est censée appartenir à personne, si ce n'est aux populations locales, pour subvenir à leurs besoins vitaux. Voilà, ça c'est... c'est une autre déclaration de la même personne France Nature Environnement. Et voilà, et il a fallu attendre 2010 pour que le problème de l'épuisement soit pris au sérieux par les autorités. Entre-temps, Nestlé Waters est devenu propriétaire des marques en 92. La multinationale a augmenté le nombre de bouteilles et diminué le nombre d'employés, passé de 4500 en 1975 à 900 employés aujourd'hui. Et les élus continuent à soutenir. Hein. Bref. Elle pompe désormais près de 800 000 mètres cubes d'eau par an, soit 800 millions de litres par an de la nappe et exporte l'eau à l'étranger sous la marque Vittel Bonne Source. Moi, si j'habitais à Vittel, j'irais acheter de la Vittel Bonne Source. Non, j'arrête mon cynisme. Donc, or, le déficit de la nappe est d'environ 1 million de mètres cubes par an. Ainsi, donc, Nestlé serait responsable de 80% du déficit. Ça, c'est des chiffres qui ont été produits par Vosges Nature Environnement. Donc voilà, sachant que ce qui se passe là, dans les Vosges, est récurrent depuis de nombreuses et nombreuses années dans énormément de pays où beaucoup de multinationales se sont ont privatisé les ressources en eau.
Par exemple, là, en Colombie, je crois, où il y a l'exemple de Coca-Cola, et où tu disais que tu étais cynique comme ça en parlant d'aller acheter des bouteilles d'eau Vittel. Mais effectivement, Coca-Cola, eux, pour contrebalancer un peu leur truc, et ben, eux, ils offrent des frigos avec des bouteilles de Coca-Cola aux épiciers du coin pour que les gens, bah, ok, vous n'avez plus trop d'eau, mais en même temps, vous filent du Coca, donc bon, voilà. Ah là là.
Et on va finir brièvement donc sur différents titres qui autour de la répression en France, donc différents petits bouts de notamment lundi matin autour de ce qu'on avait on l'avait pas mal expliqué la semaine dernière, c'est qu'il y a une personne donc qui s'appelle Maxime qui a perdu, qui s'est fait amputer de la main à l'hôpital. Donc c'était mardi dernier parce qu'il s'était pris il a perdu sa main là avec une grenade lancée sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et donc je vais vous lire le communiqué qu'il a écrit alors si je le retrouve qu'il a écrit que ses amis ont écrit et qui a été diffusé hier sur le site de lundi matin.
Te perds dans tes papiers, ouais, parce qu'en même temps, vous ne voyez pas dans le studio, mais il a au moins 5 papiers devant lui. Alors hop, il cherche. Est-ce que c'est lui? Non, peut-être c'est... Ah, moi je pense que c'est lui.
Oui, voilà. Donc les mois d'avril et mai dernier, les expulsions sur les terres de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes signifiaient des milliers de gendarmes, de tirs tendus et d'affrontements. Mardi 22 mai, Maxime, un jeune de 21 ans, étudiant à Lille, a eu la main littéralement arrachée par l'explosion d'une grenade tirée par les forces de l'ordre. Peu importe qu'elle soit lacrymogène, instantanée, assourdissante, à effet de souffle, à effet psychologique, à effet combiné, modulaire, offensif ou de désencerclement. Peu importe le nom donné à cette grenade est une grenade. Et peu importe également ce que Maxime a fait pour que cette grenade lui explose dans la main. Jamais cette grenade n'aurait dû être lancée, ni dans sa direction, ni ailleurs. Il y a 4 ans, Rémi Fraisse mourait à cause d'une grenade qui avait déjà emporté Vital Michalon, 37 ans avant lui. Cette grenade-là a été suspendue, mais l'État a jugé pertinent alors de sauver celle qui aujourd'hui a mutilé Maxime et d'autres avant lui. Donc, Edouard a eu la main arrachée par une GLIF4 le 25 janvier 2001 à Lille lors d'une manifestation. Pascal a eu les oreilles arrachées par une GLIF4 le 29 janvier à Saint-Nazaire. Et Michael a eu la main arrachée par une GLIF4 le 26 octobre 2013 à Pont-de-Buis lors d'une manifestation. Robin P. a eu une partie du pied arrachée par une GLIF4 le 15 août 2017 près de Bure. Donc là, ils ont mis ces exemples, mais je me permets de faire une parenthèse en disant qu'ils oublient énormément d'autres personnes. Là, ils parlent que dans des cadres de manifestation, mais elles ne sont pas utilisées que dans des cadres de manifestation. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres gens aussi qui ont été touchés. Il perpétue ainsi cette fameuse doctrine française du maintien de l'ordre, le savoir-faire à la française, qui permet à la France de faire le commerce juteux de ses armes de mort dans le monde entier. Mais nos champs, nos forêts, nos rues et nos quartiers ne sont pas des champs de tir. Combien de visages déjà défigurés par les flashballs et autres grenades? Combien de traumatismes? Combien d'éclats dans les chairs de nos proches? Combien de peurs? Combien d'existences brisées? Nous refusons de voir nos vies suspendues à un fil parce que des marchands de mort se jouent de nos rêves d'un monde meilleur. Nous refusons d'accepter ces logiques meurtrières qui voudraient justifier l'usage des armes contre des populations civiles, quelle que puisse être l'idée qu'on se fait de leur intention. Dans absolument tous les cas que nous connaissons, les forces de l'ordre n'étaient pas en état de légitime défense. Nous exigeons que soient retirées aux forces de l'ordre ces armes qui mutilent nos chairs et celles de nos enfants. Nous, associations, notre tristesse et notre colère à la douleur de Maxime, et nous appelons toutes celles et tous ceux que cette histoire ne laisse pas indifférents à se rassembler ce mercredi 30 avril 2018 à 18h dans toutes les villes et lieux dits où cela sera possible. De chaque rassemblement, nous ferons passer une photo de Maxime. Celles et ceux qui le souhaitent sont invités à venir avec un gant de couleur rouge. Pour Maxime et pour la suspension définitive de toutes les grenades explosives, rassemblons-nous. Donc j'imagine que dans le Canu Info de demain ou de vendredi, il y aura ils parleront des rassemblements. Pour l'instant, nous, on n'a pas eu les rendus de ces rassemblements. Et pour parler, pour continuer là sur la répression, il y a vraiment un truc global où à chaque fois qu'il y a des bavures policières, ils essayent de trouver une manière de rendre coupable un petit peu la victime. Qu'elle soit du coup, que ça soit un meurtre ou que ça soit un dégât physique sur une mutilation, et sauf que c'est, ça permet un peu à l'État de se dédouaner et aux policiers, et du coup il y a vraiment une logique de défense de leur part en accusant, alors que c'est eux qui ont commis, c'est eux qu'on doit accuser, sauf qu'ils ont systématiquement ce truc. Et quand même, il y a quelques semaines, là, en Belgique, il y a une petite fille de 2 ans qui a perdu la vie. Il y avait des rassemblements la semaine dernière en Belgique, il y en a eu plusieurs, donc c'est un flic qui lui a tiré dans la tête. C'était lors d'une course-poursuite où ses parents étaient au volant, son père était au volant, et elle était sur les genoux de sa mère, et elle est morte... à l'hôpital, et ses parents pendant ce temps étaient en garde à vue. Et je veux dire, c'est c'était une fille d'origine kurde, et du coup c'est un exemple parmi tant d'autres des violences policières et des meurtres policiers où chaque fois ils s'en tirent et chaque fois ils accusent donc les victimes. Et vraiment c'est récurrent. Et je trouve là le communiqué il parle un peu de ça, même si c'est pas des mêmes niveaux dont on parle entre un meurtre et une mutilation, mais c'est bien les mêmes logiques qui sont derrière.
C'est ça, ou effectivement, puis en plus dans c'est dans le cadre des pour le cadre des manifestations, il y a aussi la logique en plus de ça de vouloir faire peur, de vouloir dissuader, de vouloir en faisant un peu passer un message en creux, de dire bah maintenant aller à des manifestations, c'est prendre le risque de trois petits points et de ça. Sauf que voilà.
Et aussi sur le site de lundi matin, donc c'est par rapport à un étudiant de Toulouse grièvement blessé par une grenade de désencerclement. Vous pouvez aller voir la vidéo de l'interpellation qui anéantit la version des policiers et la communication du procureur de la République. Et donc ils l'ont publié là sur leur site. Donc c'est intéressant quand on lit la déclaration donc du procureur et que là cette vidéo elle a été publiée, et il y a un énorme écart et ils savent très bien écrire et c'est leurs mots et c'est ben eux qui sont au pouvoir, mais c'est intéressant je trouve d'avoir publié cette vidéo pour remettre aussi les choses un peu à leur place, même si je suis pas sûr que ça fera changer les choses, mais voilà.
Au cours d'un procès ça peut Mais du coup, ça, tu parlais de la personne de Toulouse.
Ouais. Ouais. À l'université.
Ouais, c'est ça. Mais en ayant vu la vidéo, c'était assez impressionnant sur effectivement le communiqué de la préfecture qui parle de policiers acculés, tout ça. Alors qu'effectivement, quand tu vois la vidéo, bah en fait, il y avait juste des étudiants et lycéens qui sortaient de la bouche de métro dans une ambiance. Plutôt bon enfant et qui allait rejoindre un piquet de grève des cheminots à 2h ou 3h du matin. Ils chantaient tout ça, hop, ils ont vu qu'il y avait la BAC qui les attendait à la sortie du métro, ils ont gueulé, il y a la BAC. Et d'un coup, les gars de la BAC ont pété un câble en mode, comme ils en sont capables, quoi, à sortir les gazeuses, à plaquer quelqu'un au sol et à sortir une grenade, quoi.
Bah, difficile d'être joyeux dans ce monde. Hein. Voilà. Bon, on espère que cette heure était quand même pas trop indigeste pour vous. On va quand même continuer à faire des infos, hein, malgré tout.
Et on va vous laisser avec 7 minutes de pause de bande continue, l'histoire de vous reposer. Et ensuite, vous retrouverez Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, 19h.
Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.